Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nine Nar Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en 1998, La domination masculine est un essai de sociologie dans lequel Pierre Bourdieu analyse les rapports de genre comme une forme durable de pouvoir social. Son propos ne consiste pas à attribuer la hiérarchie entre hommes et femmes à une nature biologique, mais à montrer comment une construction historique peut paraître naturelle. Il mobilise notamment ses travaux ethnographiques sur la société kabyle, conçu comme un révélateur de structures symboliques plus larges, puis relie ses observations aux sociétés occidentales contemporaines. Le livre prolonge des notions centrales de Bourdieu, telles que habitus, pouvoir symbolique et reproduction sociale. Il étudie la manière dont les catégories masculins et féminins organisent les corps, les espaces, le travail, les attentes et les institutions, court mais théoriquement dense. Cet essai vise ainsi à rendre visibles les mécanismes ordinaires par lesquels une domination peut être acceptée, y compris par ceux et celles qui en subissent les effets. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la violence symbolique rend la hiérarchie des sexes difficile à percevoir. Le concept directeur du livre est celui de violence symbolique. Il ne désigne pas principalement une contrainte physique ou une décision explicite, mais un pouvoir discret qui agit par les catégories de perception, les habitudes et les attentes partagées. Une hiérarchie devient particulièrement efficace lorsqu'elle semble aller de soi. Les individus peuvent alors interpréter des différences socialement produites comme des différences naturelles et organiser leur propre conduite en fonction de ce cadre. Bourdieu insiste sur le fait que cette adhésion ne doit pas être comprise comme un consentement libre et pleinement réfléchi. Elle résulte de dispositions acquises dans un monde déjà structuré par la division sexuelle. Les femmes comme les hommes peuvent donc employer, souvent sans le vouloir, les schèmes qui reconduisent l'ordre androcentrique. Cette analyse déplace la question politique. Il ne suffit pas de dénoncer des préjugés isolés ou des comportements individuels, car les principes de classement sont incorporés et collectivement confirmés. La domination opère aussi lorsque les positions inférieures paraissent normales, désirables ou inévitables. Le livre propose ainsi une sociologie des évidences sociales, attentive à ce qui devient invisible précisément parce que cela façonne la perception quotidienne. Deuxièmement, le corps et les dispositions sociales transforment le genre en seconde nature. Bourdieu refuse de réduire le genre soit à la biologie, soit à une simple opinion que chacun pourrait modifier sans résistance. Il analyse plutôt un travail social de longue durée qui inscrit des dispositions dans les corps. Les manières de se tenir, de parler, de se déplacer, de se présenter ou de se sentir autorisé à occuper un espace ne sont pas neutres. Elles sont façonnées par une éducation et par des situations répétées qui associent certaines qualités au masculin et au féminin. La force, la visibilité publique. Le commandement ou le risque peuvent être valorisés comme masculins, tandis que la retenue, le soin et la disponibilité sont plus volontiers rapportés au féminin. Ces associations ne décrivent pas une essence des personnes. Elles produisent toutefois des attentes concrètes et des sanctions sociales lorsque les conduites les contredisent. Le concept de habitus permet de penser ce mécanisme sans imaginer des individus entièrement passifs. Les pratiques possèdent une marge de variation, mais elles se déploient dans des limites déjà incorporées. Cette perspective explique pourquoi une réforme juridique ou un changement de discours ne suffisent pas automatiquement à effacer les inégalités. Les institutions et les interactions ordinaires continuent de confirmer des rôles qui finissent par être vécus comme spontanés. Troisièmement, la société kabyle sert de modèle analytique et non de simple décor ethnographique. Les descriptions de la société kabyle occupent une fonction méthodologique essentielle dans le raisonnement de Bourdieu. Il y examine une organisation fortement structurée par des oppositions symboliques entre masculin et féminin, entre dehors et dedans, entre activité publique et domestique, ou entre honneur et discrétion. Cette configuration rend plus lisible des principes de classement qui peuvent paraître diffus dans les sociétés contemporaines. Le recours à Ska vise donc à rompre avec la familiarité qui empêche de voir les fondements de son propre univers social. Bourdieu cherche des permanences dans la logique de la domination, non une identité parfaite entre les contextes historiques. Cette ambition donne au livre sa portée comparative, mais elle explique aussi une limite fréquemment discutée. Des critiques ont estimé que le modèle accordait une place insuffisante visante aux transformations historiques de la domination, aux différences entre groupes sociaux et aux acquis des travaux féministes. Cette réserve ne supprime pas la valeur heuristique du procédé. Elle invite plutôt à lire le cas kabyle comme un instrument de dénaturalisation et non comme une image immobile de toutes les sociétés. Le lecteur doit donc distinguer la structure analytique proposée par Bourdieu des réalités multiples et changeantes des rapports de genre. Quatrièmement, famille, école, église et État assurent la reproduction historique de la domination. Une question décisive du livre concerne le passage de l'histoire à nature. Bourdieu demande comment une relation de pouvoir, produite dans des conditions historiques déterminées, peut acquérir une apparence de permanence. Sa réponse met au premier plan le travail de plusieurs institutions. La famille transmet des attentes et une division pratique des rôles dès les premières socialisations. L'école peut élargir les possibilités des femmes, mais elle contribue aussi à classer les aptitudes, les filières et les ambitions selon des schèmes sexués. Les traditions religieuses et les formes étatiques de classement participent également, selon des modalités variables, à la légitimation des différences. Cette approche évite de faire du patriarcat une somme de volontés masculines individuelles. Les hommes tirent des avantages d'un ordre hiérarchique. Mais cet ordre se maintient aussi par des règles, des rites, des critères de respectabilité et des institutions qui dépassent chaque acteur. Le diagnostic a une conséquence pratique importante. Une transformation durable suppose de modifier les conditions de reproduction et pas seulement de corriger les attitudes déclarées. Cela implique une attention aux répartitions du travail, aux procédures de sélection, aux normes familiales et aux représentations de la compétence. Bourdieu ne fournit pas un programme politique détaillé, mais il formule le problème d'une neutralisation des mécanismes qui entravent le changement. En dernier lieu, la domination impose aussi aux hommes les exigences coûteuses de la virilité. La domination masculine ne présente pas la masculinité comme un privilège sans contrainte. Bourdieu montre que la position dominante comporte des injonctions à la force, au contrôle, au courage, à la compétition et à la démonstration publique de valeur. La virilité est ainsi une forme de capital symbolique qui procure reconnaissance et autorité, tout en exposant les hommes au jugement des autres hommes. Il faut prouver que l'on est à la hauteur de ce rôle, éviter les signes associés à la faiblesse et accepter parfois des conduites risquées ou agressives. Cette analyse ne crée pas de symétrie entre les effets de la domination sur les sexes. Les femmes supportent une position structurellement subordonnée et des limitations spécifiques de leurs possibilités. Elle permet néanmoins de comprendre pourquoi la transformation rencontre des résistances au-delà du seul intérêt matériel. Renoncer à certains privilèges peut également signifier, pour des hommes socialisés dans cet ordre, perdre des repères de dignité et de reconnaissance. Le livre invite donc à analyser les coûts subjectifs de la domination sans les confondre avec ses effets inégalitaires. Cette dimension enrichit la critique du patriarcat en montrant que le système produit des identités contraintes et non seulement des avantages distribués de façon univoque. En conclusion, cet essai convient en priorité aux lecteurs de sociologie, de philosophie sociale, de sciences politiques, de théorie féministe et de sciences de l'éducation qui souhaitent comprendre les mécanismes structurels des inégalités de genre. Il peut aussi être utile aux personnes engagées dans des institutions, car il fournit un vocabulaire pour analyser ce qui se joue dans les pratiques ordinaires de sélection, de socialisation, de travail et de reconnaissance. Son bénéfice intellectuel majeur est de déplacer le regard depuis les intentions individuelles vers les conditions qui rendent certaines inégalités plausibles, routinières et parfois invisibles. Les notions de violence symbolique, de habitus et de reproduction institutionnelle aident à penser pourquoi des changements formels peuvent coexister avec des dispositions et des hiérarchies persistantes. Par rapport à des ouvrages plus descriptifs sur les discriminations ou plus prescriptifs sur les politiques d'égalité, la domination masculine se distingue par son ambition théorique. Bourdieu relie une enquête ethnographique, une théorie générale de la pratique sociale et une interrogation politique sur les possibilités de changement. Cette force constitue aussi sa difficulté. La lecture demande une attention aux concepts et gagne à être confrontée aux critiques féministes, notamment sur la place limitée accordée aux différences historiques et aux transformations contemporaines. Malgré ces débats, le livre demeure une référence marquante pour sa capacité à rendre problématiques les évidences du genre et à montrer comment le pouvoir se perpétue par des formes souvent non conscientes de reconnaissance. Si vous souhaitez soutenir Pierre Bourdieu, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.